Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission, la radio de la meilleure asso de BD de l'UTC, Coup Critics. Voilà, donc bienvenue chez Coup Critics. Je suis Melwan, je suis avec Camille et Eva.
Bonjour.
Nous sommes sur l'onde 94.9. On va donc commencer cette émission avec les lectures récentes, d'abord de ma part, ensuite de Aeva, et ensuite de Camille, et ensuite on va aborder la discussion sur le thème, et ensuite nous terminerons avec une petite hot take, une opinion que Camille voulait nous partager. Ça va être récurrent maintenant, merci Mathieu.
Merci pour le concept.
Voilà, donc ce sera... pour conclure, et puis voilà, commençons. Ma lecture récente, c'était sur Grand Blue. Donc, au début, j'avais regardé l'animé, et ensuite, j'ai lu le manga. Et c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, c'est par Kenji Inoue. Donc, c'est pas le même Inoue que Vagabond, tout ça, rien à voir. C'est donc un animé manga sur juste un mec qui va en club de plongée dans ses études d'université. Et c'est surtout, enfin c'est un manga sur de l'humour, beaucoup d'humour, beaucoup de très bon d'humour, et aussi sur de la romance. La romance est un peu bizarre, c'est-à-dire que il y a des choses qui se passent, je comprends pas trop. Après, c'est pas encore terminé, c'est en cours. Il y a eu seulement une saison d'animé qui est sortie il y a genre 6-7 ans, un truc comme ça. Et puis le manga, lui, il a commencé depuis 2014. Et puis, donc c'est encore en cours, rien n'est terminé. Mais la romance, c'est un peu bizarre. Mais le point fort de l'humour, enfin, le point fort du manga, bah, justement, c'est l'humour. C'est quelque chose, c'est un manga qui est justement très connu pour ça. C'est-à-dire que l'humour, donc c'est. Forcément, un mec en université va y avoir beaucoup de blagues, pas, enfin, comment dire, très, je dirais pas mature, ce mot m'énerve, mais c'est vraiment pas mature, c'est ça le truc, mais plus adulte, voilà, ça aborde des thèmes qui sont vraiment pas pour des gens qui connaissent pas, du coup, enfin, genre pour des enfants, des choses comme ça, ce qui est très rare dans les gags manga, parce que souvent c'est soit des gags un peu classique, soit c'est clairement pour les enfants, mais là c'est très clairement pour les adultes, et même pour ceux qui ont des âmes sensibles, c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de blagues qui vont parfois entre guillemets un peu trop loin, même si ça reste très drôle. Et en fait tout le corps entre guillemets de tout le cœur du manga, ça tourne autour de l'humour sérieux. Donc c'est quelque chose que j'ai entre guillemets découvert avec Bakuman. Alors Bakuman, du coup, c'était ma dernière lecture récente, et c'est un manga sur justement deux créateurs de manga qui où on voit leur célébrité exploser et comment ils vont résoudre plusieurs problèmes par rapport à être des mangaka, à quel point c'est compliqué. Enfin, je pense que si vous avez écoutez le dernier épisode, donc forcément vous voyez de quoi je parle. Et donc dans cet animé, dans ce manga, à un moment, les protagonistes doivent mettre justement de l'humour dans leur manga, et utilisent du coup l'humour sérieux. Donc c'est de faire des choses débiles, mais de manière très sérieuse. Et c'est aussi beaucoup d'humour graphique, Grand Blue. Et depuis que j'ai lu ça sur Bakuman, je ne peux plus ne plus voir l'humour sérieux absolument partout. C'est quelque chose, quand on le voit et qu'on rigole, on n'y pense pas vraiment, mais depuis que j'ai lu Bakuman, je le vois partout. Et quand j'ai lu Grand Blue, je le voyais absolument partout, et c'était très drôle, un humour très graphique, un humour pas forcément dégradant, mais et puis surtout, c'est pas des choses un peu aléatoire qui arrive, c'est-à-dire que chaque personnage aura tendance à faire telle sorte de chose qui est très drôle à voir quand le mec le fait de manière très sérieuse. Donc voilà, donc ça parle d'un club de plongée, mais bon, après 90% de l'humour, c'est pas du tout à propos de la plongée, et même le manga s'autocritique beaucoup par rapport à ça. Et bon, après, au niveau de la romance, c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, simpliste. Forcément, on va avoir plusieurs filles qui vont aimer le protagoniste principal, et puis il va y avoir des histoires, et puis voilà, et puis le main interest qu'on voit depuis le début, qui fait un peu de tsundere, et ça m'énerve.
Tu peux expliquer juste ce que c'est tsundere, parce que je pense que tout le monde sait pas ce que c'est.
Ouais, alors tsundere, c'est-à-dire que c'est un type de personnage féminin dans les animés de romance et des choses comme ça, où le but ce sera d'être comment on a j'ai que le cliché en tête.
C'est pas genre tu détestes être mignon mais tu l'es inconsciemment, enfin c'est un truc comme ça.
En gros
c'est pas genre t'agis comme si tu l'aimais pas.
Oui voilà c'est ça, t'agis comme si tu le détestais mais au fond de toi tu l'adores ou des trucs comme ça. Et c'est souvent en fait c'est très récurrent dans les animés de romance, j'ai l'impression que c'est un peu la carte. J'ai la flemme de faire un personnage, donc je vais mettre un truc de tsundere. Donc voilà quoi.
Ouais, ça fait un peu partie des clichés d'écriture. Juste, j'ai du mal à comprendre ce que t'entends par l'humour sérieux. Est-ce que t'as des exemples à donner? Parce que moi, l'humour, c'est que c'est pas sérieux, au contraire, c'est pour faire rire du coup.
Ouais, alors en fait, justement, c'est ça le truc. C'est que c'est quelque chose de complètement débile, de complètement en dehors d'une réflexion d'une personne normale. Et qui va être effectué de manière totalement sérieuse. C'est-à-dire que le protagoniste peut être dans la situation la plus dégradante pour lui, mais il s'en fout. Et c'est quelque chose de très, très drôle. Comme par exemple, alors il y a le fait, je sais pas pourquoi, mais l'une des premières choses qui nous est dit à propos de, justement, du club de plongée, c'est que tous les mecs du club de plongée, généralement, ce qu'ils font, c'est que le soir, ils se mettent à poil et boivent des bières. Et du coup, tu te retrouves avec des situations très drôles. Mais oui, comme ça, ça n'a pas l'air...
C'est donc ça ce qui est sérieux. J'ai rien sérieux dans le truc.
Oui, mais en fait, justement... Boire
de la bière, c'est ça, être sérieux.
C'est qu'ils se prennent très au sérieux par rapport à ça. C'est-à-dire que pour eux, leur thé, c'est du... comment dire? C'est un mélange de rhum et de vodka, parce que ça a la même couleur. C'est le seul truc. Du coup, voilà, quoi. Et justement, c'est débile, c'est drôle, mais ils le font de manière très sérieuse.
Ce qui est justement drôle, du coup, c'est un peu le grand écart entre le truc con et puis la...
Et la connerie sérieuse.
Ouais. Je pense que c'est de l'humour qui fera rire que les... Pas les adultes, mais les personnes... Enfin, pas les enfants, quoi, en tout cas.
Clairement.
C'est ça, enfin, faut avoir un minimum vécu.
Ouais, c'est ça. on va dire ça.
Du coup, je pense que j'en ai terminé avec ma lecture récente. On peut passer à celle d'Aeva et je te laisse parler.
Ok, très bien. Alors moi, je voulais vous présenter du coup ma dernière lecture, qui est Toilet Bound Anna Cocoon, qui est produit par Aida Hiro, qui est un studio composé d'un scénariste et d'un dessinateur. La série, elle est en cours, elle est publiée en France chez Pika Édition depuis 2021. Donc pour le résumer, c'est une jeune fille, c'est le personnage principal, qui s'appelle Nene Yashiro, qui demande de l'aide au fantôme des toilettes Anako, qui est réputée pour exaucer les souhaits, et elle lui demande donc de réaliser son souhait le plus cher, qui est que son crush soit amoureux d'elle, en fait. Mais suite à de nombreux rebondissements, parce qu'au final, exaucer des souhaits, ça se fait pas comme ça, et c'est pas aussi simple que prévu, et rien ne se passe comme prévu au final, elle se retrouve liée à Anako, donc je rappelle le fantôme des toilettes. Elle se voit donc contrainte de devenir son assistante et de le suivre dans ses activités d'esprit de l'école. C'est toute l'histoire, en fait, se passe, ce qui est assez spécial, on va dire. Quasiment toutes les actions se passent au sein de l'école. On ne voit jamais la famille du personnage principal, on ne voit jamais sa maison. Tout se passe dans l'école, ou presque. Et l'école comporte donc 7 mystères, 7 fantômes, 7 entités paranormales qui ont tout un rôle spécifique, une légende bien précise qui lui est associée. Et l'univers a des règles particulières, un fonctionnement particulier qui fait que chaque personnage peut interagir avec le lore, entre guillemets, et le lore peut interagir avec le personnage aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas du spoil, mais bon, je vais quand même pas rentrer dans les détails, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est vraiment un univers à base de légendes urbaines, de paranormales, mais en même temps, il y a un côté très mignon, c'est vraiment mignon comme univers. Les fantômes, ils sont presque tous adorables, on va dire. Les personnages sont extrêmement attachants, et ils sont aussi très touchants, il y a des vraies histoires, c'est pas que du gag, c'est pas que du mignon, c'est quand même très bien écrit. Et à côté de ça, ça aborde quand même des sujets assez glauques et lugubres, parce que, en fait, le sujet principal de l'œuvre, c'est la mort, en fait. Finalement, ça parle majoritairement de ça. Entre autres, hein, c'est pas les seuls sujets abordés, mais ça parle beaucoup de ça. Ça tranche vachement avec les gags qu'il y a dans le manga, l'humour qui est omniprésent, en fait. Et les dessins qui sont incroyables, qui sont mignons. Il y a un style graphique qui est vraiment... Mais c'est vraiment unique, j'ai jamais vu ça. Les couleurs sont incroyables. Quand on achète le manga, il y a toujours des pages couleurs dedans. Les couvertures sont magnifiques aussi. Et il y a une saison 1 qui est sortie en animé il y a quelques années. Je sais pas si la saison 2 est annoncée, c'est possible, je sais plus. Mais enfin, c'était vraiment... C'est vraiment joli à voir. En plus, c'est mignon, c'est cool, c'est un peu glauque, mais c'est sympa. Les chara-designs sont hyper bien travaillés. Enfin, je sais pas, moi je suis une dingue de ce manga, en fait, pour commencer. Ça fait des années que je le suis. Je l'achète à chaque sortie, je suis comme une folle comme ça, devant. Une chose que je reprochais au manga, c'est qu'en fait, ça fonctionnait vachement par petites intrigues, mais qui n'avaient pas forcément... Parce qu'il y avait un peu des liens entre elles, mais disons qu'il n'y avait pas un fil rouge hyper précis à l'histoire. On savait pas trop où on allait, on va dire. Mais là, ça change récemment. Les derniers tomes... prennent une direction bien particulière. On a enfin des réponses à des questions qu'on se pose depuis le début, ou en tout cas, on se rapproche de réponses plutôt. Et ça fait plaisir parce que quand on suit le manga depuis genre, enfin moi je te le suis depuis genre 2022, un truc comme ça. C'est sympa d'avoir des réponses au bout d'un moment. Donc voilà, je sais pas si vous avez lu ce manga ou si vous en avez entendu parler peut-être.
Non, j'avoue que après moi je l'ai vu passer sur les tables au niveau des librairies. Mm-hmm. Et en vrai, j'imaginais pas que ça parlait de ça. Enfin pour moi effectivement pour moi l'humour était présent mais jamais j'aurais pensé que ça parlait de ça en fait.
Ah ouais, tu pensais que ça parlait de quoi ?
En vrai, je sais pas, enfin pour moi effectivement oui, il y avait enfin pour moi c'était plus une suite de gags qui se passait à l'école, mais pas plus, tu vois, genre il n'y avait pas d'intrigue plus que ça.
Ok, d'accord. Et en fait, quand on commence l'histoire, elle a un point de départ. Je dirais pas que ça s'éloigne de ce point de départ-là, mais je dirais que l'intérêt de l'histoire n'est pas là, en fait. L'intérêt de l'histoire n'est pas dans le fait que la personnage principale, c'est l'assistante du fantôme et tout. Ouais. Ça évolue vers vraiment d'autres thématiques. Et c'est toujours... c'est toujours très bien. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on avait un point de l'histoire où ça devient un peu plus grave, ce qui se passe, on va dire. Il y a les actions des personnages ont des conséquences, ce qui leur arrive ont des conséquences, et pas toujours Hanako, le fantôme super fort, qui vient aller sauver tout le monde et tout.
Il faut quand même qu'il y ait un peu de...
Là, on arrive à un point de l'histoire où les choses ne se résolvent pas forcément toujours très bien. Et c'est la vie, quoi. Donc, je sais pas si Mélouane, toi, t'en avais entendu parler ou...
Alors, en fait, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais le seul truc que je sais, c'est le style graphique qui vraiment a l'air très classe. Et le fantôme, justement. Mais c'est tout. Et du coup, tu m'en apprends beaucoup. Ça m'intéresse, je suppose. Mais j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Je connais...
En vrai, je pense que je le lirai peut-être à un moment, quand j'aurai vidé ma pile à lire.
La fameuse pile à lire. J'ai trois que... Oui, je suis pareil, t'inquiète pas. Mais franchement, c'est un manga que je peux que encourager à lire, parce qu'en plus, il n'a pas besoin de beaucoup de contexte pour être compris, on va dire. Dans le sens où toute l'histoire se passe du coup dans un lycée au Japon, et on pourrait se dire le lycée au Japon c'est pas comme le lycée en France, il y a des références qu'on va pas avoir, il y a beaucoup de choses qu'on va pas avoir, et en un certain sens c'est vrai, et je pense qu'il y a beaucoup des légendes urbaines qui sont présentes dans le manga, qui ne sont pas réellement présentes en France, qui font pas partie de notre folklore étudiant français, on va dire, genre le fantôme qui hante les toilettes, apparemment c'est un truc qui est une légende assez connue au Japon, de ce que j'ai suivi. Il y a d'autres trucs que je vais pas dire, mais voilà, il y a d'autres légendes comme ça, mais ça se lit quand même plutôt bien. En plus, moi, je suis une personne qui aime beaucoup les histoires de fantômes, le paranormal et tout. Donc, tout de suite, ça m'a vachement accrochée. Ça se lit bien, c'est sympa, ça se lit vite. Ça met du baume au cœur un peu quand même. Si c'est un peu triste parfois, mais en général, ça va.
Malgré le glauque.
En fait, ils arrivent à... Comment dire ?
Rendre le glauque drôle.
Oui, en fait, c'est un peu ça. Soit le rendre drôle, soit à faire comprendre le glauque malgré... le drôle, on va dire. C'est un peu masqué derrière. C'est pas que c'est masqué derrière, c'est compréhensible, c'est des fantômes, ils sont morts, en fait. Voilà, ça, c'est pas un mystère. Il y en a qui ont tué des gens, qui ont commis des crimes et tout. Et des fois, en fait, t'es là, tu lis ton manga, tu dis « Oh, Hanako, il est trop mignon, trop cool et tout, trop rigolo. » Puis après, il y a un événement, il y a un truc dans l'histoire qui te fait rappeler « Ah, mais c'est vrai que non seulement il est mort, mais en plus, il a tué des gens avant de mourir et tout. » Okay. C'est vrai que c'est moins drôle, ça. Et Toi, t'as envie de comprendre l'histoire, t'as envie de savoir pourquoi. Et c'est vraiment... c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien foutu pour le coup. Donc je vous encourage à lire ça.
Ok, d'accord. Okay. Bah, merci beaucoup, Aïva, pour ta lecture. Ça a l'air très intéressant. C'est au début, je pensais pas du tout lire ce manga, mais du coup, ça m'intéresse beaucoup plus. Et bon, on va passer du coup à la dernière lecture de Camille. Alors toi, c'est...
Et moi, il me semble que vous avez présenté des mangas. Donc moi, je vais vous présenter un roman. Donc c'est une trilogie de Margot Dessen qui s'appelle Absolue. Donc c'est une dystopie young adult. Pour l'instant, il y a deux tomes qui ont été sortis. Donc le premier, Les Mobilisés, et le deuxième, Les Effacés. Le troisième est en cours d'écriture. Voilà. Et cette dystopie, elle se passe dans une Pologne qui est assez dans le futur et ravagée, qui est aussi dirigée par un régime totalitaire qu'ils ont nommé Hérit. Et en gros, je vais vous faire un petit résumé rapide du tome 1. Donc en gros, il y a 19 générations qui ont franchi les portes de la zone et personne n'en est jamais ressorti. Donc la vie de nos protagonistes, on va dire, Prime, Johanna et Edvard, elle bascule le jour où eux sont choisis pour être envoyés dans la zone et où rôde la chose. Donc c'est le monstre qu'ils vont être chargés d'abattre. Et tous les mobilisés avec qui ils ont été envoyés, ils n'ont qu'une seule mission, c'est de vaincre ce monstre. Pour pouvoir ensuite ressortir de la zone et dire que oui, on a vaincu, la menace est éliminée, tout va très bien. Ou sinon, mourir, parce que clairement... C'est une dystopie, ce serait pas drôle sinon.
Bah oui, l'intérêt sinon.
C'est ça. Et le problème, c'est que leur arrivée dans la zone, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Enfin, c'est pas super glorieux, c'est voilà. Et tout le monde n'est pas, on va dire, soudé pour réussir à tuer la chose. Mais c'est plutôt devenu une guerre de territoire entre les différents clans qui se sont formés. Et aussi des phénomènes assez étranges, puisque certains des personnages vont muter. Et avoir quelques pouvoirs, on va dire. Et du coup, la zone, c'est devenu un lieu de non-droit. Et du coup, ils vont devoir essayer de s'en sortir. Donc voilà. Ce qui est plutôt bien dans ce roman, c'est qu'il y a plusieurs points de vue. Donc on voit les points de vue de plusieurs personnages. Donc Johanna, Prime, Edvard, principalement aussi. Et d'autres personnages qui arrivent au fil de l'histoire, et on se prend moi perso j'ai beaucoup aimé parce que on s'attache beaucoup à ces personnages et on se met direct en fait dans l'ambiance un peu post-apocalyptique de cette zone de l'endroit. Et ce qui est assez marrant parce que on se dit que c'est une dystopie, mais l'autrice, elle s'est quand même, enfin, on voit qu'elle s'est inspirée de quelques mangas. Par exemple, elle s'était inspirée de Full Metal, Alchemist, ouais.
Ok.
Il y a aussi un peu d'Attaque des Titans des fois dans la vibe. Mais je t'assure. Et en fait, genre vraiment, c'est très bien. Et je trouve que pour un genre, parce que la dystopie, c'est vrai que en ce moment, on n'entend plus beaucoup parler. Ouais, je trouve que c'est un petit renouveau et ça fait du bien. Donc voilà. Bon, après, on va pas se mentir, c'est une dystopie, donc rien ne va se passer comme c'est prévu, il va y avoir des morts. Et ce qui est assez drôle, parce que j'ai eu l'occasion en fait d'aller en dédicace pour aller faire dédicacer un de mes livres avec cette autrice.
Du coup, c'est une autrice française.
Ouais, c'est une autrice. Okay, elle est lilloise. Donc elle est autrice, oui, podcasteuse et puis entrepreneuse. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas se faire, on ne sait pas.
Businesswoman, d'accord.
Ah ouais. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'aller la voir en dédicace. Et vraiment, comparé à comment elle agit, dans le monde réel, et ce qu'elle fait à ses personnages, la différence est vraiment flagrante. Et c'est ça qui est très drôle aussi.
Ok, d'accord.
Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez.
Absolument pas.
Absolument pas. Alors en termes de roman, je ne suis pas vraiment super cultivé, mais en plus de ça, tous les auteurs très récents, je connais vraiment pas.
J'avoue que moi, en fait, je fais à la couverture du livre. Hein. si c'est joli, peut-être que je prends.
en vrai, ça se vaut comme moi, non, j'ai envie de dire.
C'est clair.
Non, moi non plus, je connaissais pas. Honnêtement, je lis très peu de romans. De temps en temps, c'est quand même très rare. Je dis que des mangas,
je lis beaucoup de mangas aussi.
Mais
oui, non, je comprends.
Mais je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que le genre dystopique et tout, c'est un truc qui marchait,
qui marchait bien avec le labyrinthe, avec
exactement, le Hunger Game. Comment s'appelait le truc avec la meuf, la Trice 4,
Divergente.
C'était un peu la période, l'era, les trucs comme ça. Il y avait pas un truc qui s'appelait. C'est pas U4.
Oui, il y avait U4, il y a aussi U4, Mortal Instruments.
Oui, voilà, tous ces trucs-là que j'ai absolument pas lu, mais que je connais de titre. Enfin, bref. Et du coup, je trouve ça, pas étonnant, mais Bah si, en fait, je trouve ça un peu étonnant que du coup, maintenant, elle ressorte un truc... Enfin, elle avait pas écrit ces livres-là avant, mais que maintenant, elle sorte un livre à propos de la dystopie. Ouais, je sais pas si toi, Camille, t'avais lu ces livres-là.
Alors, j'avoue que j'ai pas lu Euphor et puis Mental Instrument, mais le reste, je les avais lus. Et j'avais beaucoup aimé.
Et tu préfères quoi, du coup?
Je saurais pas dire... J'avoue que Hunger Games, ça m'avait pas trop plu des masses. Mm-hmm. Mais à choisir entre Labyrinthe et Divergente, je pense que je choisirais Labyrinthe.
Ok, d'accord.
Oui, je vois. Non, mais après, c'est vrai que c'est un peu bizarre comment le genre de dystopie, on est passé de plusieurs livres adaptés en film avec un budget incroyable.
À rien du tout, en fait.
La mode, elle est un peu passée. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été produits d'un coup. Les gens en ont peut-être eu marre et peut-être qu'il y a eu des choses... J'en sais rien, t'as des choses mauvaises.
Peut-être qu'il y a eu un changement dans l'envie des gens.
Oui, c'est ça, au bout d'un moment, on en a bouffé des dystopies, hein, des rébellions et tout, on le fort en place, des trucs comme ça. Et, mais c'est quand même toujours très bien. Juste une question que je me posais par rapport au résumé, c'est que les personnages, ils sont envoyés dans la zone, ils ne peuvent pas en sortir tant qu'ils n'ont pas tabassé le monstre.
En fait, la zone, elle souffle une fois par an. Mm-hmm. Il y a des grandes portes, mm-hmm. et une fois qu'ils sont tous rentrés, je crois qu'ils sont environ une centaine.
Ils n'ont pas le choix d'y rentrer ou pas ?
Non, ils sont sélectionnés. Ils n'ont pas le choix d'y rentrer. En fait, ça arrive, je crois, le jour de leur diplôme, et il y a une sélection qui est faite. Et ils sont, je crois, une centaine à être sélectionnés. Et les portes s'ouvrent, et elles se referment, et en fait, elles vont se rouvrir, enfin, généralement, elles se rouvrent chaque année, tant que la chose n'est pas abattue, mais pour ramener plein de mobilisés. Mais
personne n'en sort.
Personne n'en sort tant que c'est pas, tant que le problème n'est pas résolu.
Ok.
Mais est-ce que c'est une espèce de règle de la zone, ou c'est juste...
Enfin, c'est ce que le pouvoir, du coup, hérite, a mis en place pour pouvoir tuer la chose.
Ok, d'accord.
Du coup, ouais, c'est un peu la règle du jeu, quoi.
Ok, d'accord, je pensais que c'était un peu...
Après, j'ai envie de te dire, la majorité crève, autres abandonnent, et puis...
Ils essayent de faire avec, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok, ouais, je comprends. Ouais.
Ok, je comprends.
D'accord. Bah écoute, c'est un très bon point, le sujet de la dystopie où les gens en avaient peut-être marre, avec celui de la fantasy. C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Donc on va parler de la fantasy, et puis surtout du fait que généralement quand on parle fantasy... Donc d'abord je vais établir la différence entre fantasy et fantastique. Donc fantasy, on va considérer que c'est quelque chose qui se passe dans un autre monde où c'est l'imagination prend complètement les rênes de l'œuvre. Et puis le fantastique, c'est plus par rapport à notre monde actuel avec du surnaturel. On va parler de la fantasy. Et généralement, ce qu'on pense fantasy, on pense à Europe médiévale avec beaucoup de choses de... Je ne sais pas si c'est hérité du jeu de rôle, mais typique jeu de rôle, comme les tanks, les magiciens, les sorts, les choses comme ça. Donc ça, c'est encore une autre chose. Et puis, encore derrière, on peut parler aussi des isekai, parce que contrairement à la dystopie a bien marché pendant un moment, ensuite on n'a rien eu. Les isekai, ça doit faire presque 10 ans qu'on en a...
Ça ne fonctionne pas et ça commence à fonctionner.
Ça fait 10 ans que ça sort en salve chaque saison de l'année, et ça devient de plus en plus n'importe quoi, enfin... Les titres et l'imagination est toujours poussée de plus en plus cette fois où j'étais réincarné en vending machine, genre.
Mais juste les isekai, isekai n'implique pas forcément qu'il y ait de la fantasy dedans.
Non, mais généralement, c'est une base pour transmettre.
Est-ce qu'on peut rappeler vite fait ce que c'est un...
Un isekai, en principe, c'est juste le protagoniste qui va changer de monde. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans un monde et puis d'un coup, il va se retrouver dans un autre. Donc, comment ça se passe, tout ça, ça dépend de l'histoire, mais c'est le but principal. Pourquoi les isekai sont souvent associés au genre fantasy ? Parce que généralement, justement, ils ont le même... la même habitude, mauvaise habitude, de se retrouver dans un monde médiéval européen. Et leur but, ce sont les élus. Il faudrait qu'ils battent un grand méchant. Et ensuite, pendant généralement toute la série, on n'entend plus parler du monde d'origine.
Du coup, dans ce cas-là, pourquoi ne pas commencer l'histoire direct? Enfin, pourquoi le faire commencer dans un monde nul et après je dis oh regarde ce monde trop bien.
Oui, enfin ouais, bref.
Genre en plus ça, généralement, genre c'est le monde dans lequel il arrive, il a aussi ses défauts.
Bah oui, forcément.
Oui, non.
Il y a pas enfin c'est étrange un peu.
Mais okay. La question, est-ce que c'est alors c'est sûrement toujours le cas en termes d'animé manga, mais est-ce que en termes de livres, c'est toujours le cas que la fantasy se soit systématiquement dans une ambiance médiévale, surtout européenne pour une raison ou pour une autre?
Alors, j'avoue que moi perso, sur les romans, j'en ai lu un dernièrement. Enfin, c'est une fantasy fantastique, c'est un mix des deux, on va dire. Et il commence aussi par un isekai. Et en soi, non, parce que genre des fois, ils peuvent se remettre dans un monde un peu cyberpunk, un peu... effectivement, il y a toujours un peu le principe de pouvoir ou de petits trucs un peu magiques, tu sais pas d'où ça sort. Mais bah, j'ai lu un livre derrière moi, bah, du coup, qui s'appelait Alunia, de Tiffs. Et le personnage principal, elle est transportée dans un monde qui se rapproche un peu d'une autre, mais avec plus de technologie, ou du moins qui est plus avancée au niveau technologique. Et puis avec effectivement un petit folklore, avec des petites choses qui changent.
Oui, donc ça a commencé à changer quand même, même si en termes de manga, d'anime, ça ne change pas, mais en roman, j'ai quand même lu plusieurs fois en faisant des recherches qu'il y a une grosse tendance à vouloir justement changer ces bases-là, parce que c'est vrai que en termes de fantasy, c'est normalement c'est toute ton imagination qui est libre normalement.
Bah c'est ça. Puis à un moment, ça devient redondant en fait de faire toujours la même chose. Alors que c'est de la fantasy, tu peux faire ce que tu veux.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que en plus de ça, comment dire, les limites sont infinies. On se limite juste à l'Europe médiévale quoi. Donc c'est pas incroyable. Mais quel est l'avenir de ce genre, à votre avis? Est-ce que vous pensez que ça va enfin se développer en tant que quelque chose de beaucoup plus élargi, ou ça va rester dans sa petite bulle d'Europe médiévale?
Genre globalement les isekai ou la fantasy?
La fantasy en général, parce que c'est vrai que quand on pense fantasy, c'est ce genre de choses qui...
Perso, je pense que la fantasy, elle s'étend déjà à beaucoup d'autres choses.
Oui, en fait. Et puis elle s'étend aussi à beaucoup de monde. Hein.
Et elle s'étend à beaucoup de monde, et elle s'étend à beaucoup de domaines différents, elle s'étend à beaucoup de types d'œuvres différents, parce qu'il y a des romans de fantasy un peu médiéval fantasy. Oui, par exemple, moi je pense directement à Game of Thrones, par exemple. Ouais. C'est totalement ça, même si dans Game of Thrones, la magie n'est pas du tout omniprésente dans l'histoire. Oui, il y a des tas de passages qui se passent sans magie, rien du tout, c'est juste du fight, des stratégies, des trucs bizarres et voilà, mais il y a de la magie quand même, il y a les dragons, il y a les marcheurs blancs, il y a tout un tas de trucs qui font partie de l'univers et
oui,
mais dans l'univers ça reste un peu des légendes, tout le monde n'y croit pas forcément à ces choses là et pourtant ça en fait partie quand même, donc il y a ça. Après il y a aussi des grands classiques que genre Le Seigneur des Anneaux.
Oui.
Je l'ai pas lu. Ça peut être classique, je l'ai pas lu.
Moi, j'ai vu tous les films, mais j'ai lu le premier. Après, c'est pas facile à lire non plus, parce que c'est des très gros livres et tout. Enfin, faut rentrer dedans, faut aimer, c'est sûr. Hein. Bah, ça, c'est quand même un classique du roman de. Bah, pour moi, c'est de la fantasy aussi.
Oui.
Je pense. J'avoue, je ne suis pas renseignée avant de dire ça, mais je pense quand même de Tolkien, du coup. Où c'est ça, on a plein de créatures fantastiques qui sont dedans. Il y a plein de concepts qui ont été apportés. Il y a les elfes, les nains, les hobbits et tout. Il y a les hommes aussi, il y a les chevaliers, il y a de la magie, il y a tout un tas de trucs. Oui, des dragons. Non, il n'y a pas de dragons. Non, je ne sais plus.
Je ne saurais pas dire.
J'ai pas l'impression. Il y a des arbres qui bougent, en tout cas, ça c'est sûr. Des dragons, ça, je ne sais pas. Je ne sais plus, j'avoue. Il y a des sorciers, ce genre de choses. Et pour moi, ce n'est pas un mal qu'on reste un peu dans cette chose médiévale, parce qu'après tout, c'est un. Pour moi, le médiéval fantasy, c'est un genre à part entière aussi. On n'est pas obligé d'y coller, mais c'est un genre à part entière. Et il n'y a pas que ça dans les romans aussi. Bah, par exemple, en manga, parce que moi je dis plutôt ça, c'est vrai, Berserk, c'est clairement du médiéval fantasy aussi.
Après, c'est encore un autre sous-genre, du coup, c'est le dark fantasy, mais...
Ah ouais, mais Jujutsu Kaisen, c'est de la dark fantasy, tu sais.
C'est de la dark
fantasy. C'est de la dark fantasy. Au dos du livre, il y a écrit dark fantasy.
Ah ok, d'accord. Après,
je suis quasiment sûr de cette info. Ouais. J'en suis quasiment sûr. Mais pas à 100%, mais presque.
Non, mais je pense que t'as raison. Après, les classifications, souvent, sont... Enfin, c'est-à-dire que c'est vrai que la fantasy, on peut associer ça au medieval fantasy, mais je dirais que c'est un abus de langage, quoi. C'est pas vraiment le cas.
Oui, c'est très vaste.
Quand ouais, même. En fait, ce que je viens de regarder, c'est que la dark fantasy, c'est de la fantasy, mais dans lequel l'ambiance, elle est très sombre, voire proche de l'apocalypse. Et du coup, ça correspond très bien à Berserk, par exemple, totalement. Et ça correspond aussi bien à Jujutsu Kaisen quand on pousse un peu le truc et tout, pour ceux qui disent...
Oui, c'est clair.
Oui, ça correspond quand même... Ça correspond quand même pas mal. Camille a l'air d'accord.
De ce que j'en ai dit, je pense que oui.
Voilà.
Ah oui, non, effectivement.
Voilà, c'est ça. Donc après, je sais pas. Après, je lis aussi un manga en ce moment qui s'appelle L'Atelier des Sorciers.
Oh, trop bien.
Qui est incroyable. Qu'on m'a beaucoup, beaucoup conseillé pendant longtemps.
Oui.
Je l'adore.
Et là, je l'ai lu. Enfin, j'ai pas lu en entier. J'ai lu genre les 5-6 premiers tomes, je crois. C'est ouais. Génial, en fait. C'est génial. Super. C'est typiquement de la médiéval fantasy. C'est à base de sorciers et tout. C'est pas ouais. Dans un monde médiéval. Bah c'est génial en fait, je sais même pas, quoi dire de plus. Du coup c'est L'Atelier des Sorciers qui est écrit par Kamome Shirahama. Mmh. Si je peux en parler un petit peu, 5 minutes. C'est du coup, enfin je vais pas trop en parler non plus parce que l'histoire de base apparaît assez classique. Mais pour moi c'est pas, l'intérêt de l'histoire se situe pas dans le pitch de base, si on s'arrête à ça. C'est trois quarts.
C'est plus un tranche de vie qui... Ah, qui augmente de la fantaisie en plus.
Ouais, c'est ça, mais il y a une quête aussi à côté.
Oui, il y a une quête précise. Mais tu sais, comme tu suis les histoires de Coco, du coup,
ouais.
Ça avance au fil. Et
oui, c'est ça.
Alors, j'ai pas lu du tout, donc je veux bien un
petit résumé.
Petit résumé,
effectivement, on en parle après. Petit résumé. Petit résumé, du coup, Coco, c'est une jeune fille humaine qui n'est pas une sorcière. On vit dans un monde où il y a de la magie, mais tout le monde peut pas la pratiquer. Tout le monde n'est pas fait pour ça, on va dire. Mais elle, un jour, sans rentrer dans les détails, et ben en fait, elle arrive à manipuler la magie, ce qui n'est absolument pas normal. Et par accident, elle transforme sa mère en statue. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde où tout type de magie n'est pas possible. Il y a certains types de magie qui sont interdits.
Ouais, ceux qui affectent le corps sont interdits.
Ceux qui modifient le corps et ceux qui modifient aussi les environnements de manière...
De manière pérenne.
Exactement. Bah, ça, c'est interdit. Et ce qui fait qu'il n'y a pas forcément de contre-sort en fait, ce qui fait qu'en fait bah Coco sa mère elle est dans la merde quoi.
Ah oui.
Et c'est pour ça que Coco va se lancer à fond dans la sorcellerie pour essayer de guérir sa mère qu'elle a donc elle-même changé dans cet état-là.
Okay.
Et donc elle va partir à la découverte de ce monde-là qui en fait on va dire n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, regorge de mystères on va dire.
Ouais.
Et de beaucoup de choses, il y a du complot, il y a
de la bagarre,
il y a de la politique et des confrontations.
Ah, mais c'est très bien comme
confrontations d'idéologie. En plus de ça, j'en reparle encore, mais les dessins sont super beaux. Bah, c'était la parenthèse, l'Atelier des Sorciers dont je voulais vraiment parler. Et que je conseille vraiment beaucoup parce que c'est pépite sur 10. Quoi.
Mais donc. Par rapport au genre fantasy, en général, l'Atelier des Sorciers, par exemple, c'est un peu innovateur par rapport à quelque chose ou c'est...
Non, à mon avis, ça reste très classique. Hein.
Ouais, ça reste dans les codes qui sont déjà prédéfinis de base et ça cherche pas... J'ai pas l'impression que ça cherche à être vraiment original par rapport à ça.
Non, je pense que... ça cherche plus à être original dans les complots, l'histoire en elle-même, comment elle est portée, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Oui, je vois.
Ça. Et puis, ouais, exactement. Plus que par pas le scénario, mais l'univers de base qui.
Oui, je vois.
C'est un univers de médiéval fantasy classique, en fait.
Oui, voilà.
C'est ça, ouais.
Finalement.
Mais par rapport, du coup, à d'autres fantasy, parce que le fantasy ne se limite pas aux fantasy médiéval européen, il y a aussi Beastars. Je sais pas si vous voyez.
Je connais de nom, mais j'ai jamais vu.
Ouais.
Ouais, je vois pas trop ce que. Enfin, je vois visuellement, je ne sais pas.
Ouais.
Que
ça
parle. Bah, du coup, je suppose que c'est de la fantasy. En fait, c'est un monde.
J'en ai aucune idée.
C'est un monde dans lequel l'ensemble de la faune a pris et est aussi intelligente que l'humain. Donc, c'est-à-dire que tous les...
Moi aussi, c'est de la fantasy. Il y a marqué, sur Wikipédia, il y a marqué fiction d'apprentissage, drame et fantasy.
Ouais, je... Bah... Donc, voilà. Ouais, donc, ça rentre... Après, je pense qu'un monde avec des loups et des, oui. et des chiens en tant que, qui portent des vêtements, etc.
Ouais, c'est des animaux ouais. anthropomorphisés, en
ouais,
fait.
Voilà, c'est ça. Ouais,
comme des humains. Ouais, ça. Ils ont des têtes d'animaux, mais des corps d'humains, entre guillemets, on va dire. C'est pas des ouais, animaux qui marchent à quatre.
Très humanoïdes, même si, en fait, il y a beaucoup, justement, de problématiques par rapport à ça, parce que bah, c'est pas vraiment des humains, ça reste des animaux qui... Du coup, bah, t'as des lapins et des loups dans la même pièce. Et il y a beaucoup de... Justement, la première saison tourne autour de ça. C'est... même si je crois que c'est l'ensemble de la série en général, mais on est introduit directement par le fait que les carnivores et les herbivores ne s'entendent pas entre eux. Parce que, bah, justement, les carnivores, ils ont faim de viande, sauf que bah, les herbivores, ils n'aiment pas le fait qu'il y ait leurs potes qui se retrouvent dans la gueule bah, de...
C'est comme dans Zootopie.
Après, oui.
Non, ça ne doit pas être pareil. Non, ça ne doit vraiment pas être pareil.
Non, non, c'est vraiment pas pareil. Il y a beaucoup de comment dire... Il y a un personnage en particulier, je crois, si je me souviens bien, il s'appelle Louis. C'est un renne. Non, pas un renne. Oh mince. Oh mince,
bah, un cerf ?
Oui, un cerf, voilà.
Ouais, t'inquiète.
Enfin bref, oui, voilà, c'est un cerf. Et c'est très particulier parce que justement, tout son personnage est tout l'intellectuel de l'auteur par rapport au fait que t'as des carnivores et des herbivores qui se retrouvent bah, à vivre ensemble quotidiennement. Et donc forcément, il y aura des questions sociales de discrimination, mais derrière, il y aura aussi des questions personnelles que notre protagoniste devra répondre. Donc l'Egoshi, qui en gros est amoureux d'une lapine, sauf que bah, le problème, c'est qu'il doit combattre un peu son instinct de la dévorer et son amour pour lui. Donc c'est un peu...
C'est pas ah, ça pue, hein.
De quoi
ça pue, cette affaire, là.
Ouais, non, mais...
Quelqu'un, t'as envie de le voir, ah, c'est un peu compliqué.
C'est compliqué.
Non, mais je crois qu'il met plusieurs saisons, quand même, à essayer de résoudre cette affaire.
Ah oui,
et puis, non, mais c'est clair. Et justement, bah, c'est ça que je trouve plutôt intéressant par rapport à ça, c'est par rapport à la fantasy, c'est que t'as un monde de base, t'as un monde très simplet. T'as des animaux à la place des humains, c'est tout le reste c'est similaire. T'as des écoles, t'as des villes, t'as toute l'organisation est similaire. Mais par contre, du coup, derrière, il va y avoir beaucoup de questions sociales par rapport au fait que bah du coup t'as des gens qui se dévorent entre eux, qui sont dans la même pièce. Et donc c'est un peu ça qui est plutôt intéressant avec le fantasy, c'est de prendre un monde et justement de réfléchir à toutes les conséquences que ce monde pourrait avoir à exister. Ouais. Quoi.
Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que de ce qui ressort un peu de notre discussion, c'est qu'en fait, finalement, les œuvres de fantasy, c'est pas juste parler du monde de la fantasy, parler de la magie, des elfes, oui, des voilà, trucs, mais surtout...
Introduire des questions sociales.
Ouais, c'est ça, c'est un moyen pour parler des questions sociales qui peuvent s'appliquer, bah, qui s'appliquent en fait déjà totalement à notre monde, en fait.
Oui, clairement.
Et de les transposer à autre chose, par exemple.
Oui, ouais. Et pas que les questions...
Ça, c'est vrai dans toutes les œuvres, j'ai l'impression.
Oui, ouais. Non, ça, c'est à peu près dans toutes les œuvres, mais il y a aussi les questions un peu... pour avoir un monde un peu réfléchi, c'est-à-dire que dans certains trucs, il le simplifie au point de dire bah, c'est un truc de jeu vidéo, donc tu balances tes sorts comme ça avec une interface. D'autres essayent quand même d'aller un peu plus loin, donc je pense notamment à Slime, parce que je vais utiliser le mot slime plusieurs fois parce que le titre entier c'est moi quand je me réincarne en slime, donc
très long à dire.
Très très long à dire. Et bah justement, c'est à dire que dans la plupart des mangas, animés, livres, c'est ils balancent un sort, des fois t'as du mana et puis ça s'arrête à là. Dans slime, il y a aussi des interfaces de jeux vidéo aussi quelquefois dans les autres livres pour simplifier le truc, dire oui en fait il gagne des niveaux, du coup il devient plus puissant, donc
c'est toujours essayer de justifier la montée en puissance et l'envie de dessiner des trucs classe.
Et ouais, voilà. C'est ça, exactement. Slime fait un peu quelque chose de différent, c'est à dire que il établit beaucoup de règles de base et a honnêtement un système de pouvoir extrêmement compliqué. En fait, en plus de ça, à la base, c'est un light novel qui a été adapté en manga et ensuite en animé. Donc, il y a beaucoup de pertes d'informations entre le light novel et l'animé.
Ouais.
Et j'ai j'ai lu le light novel, j'ai lu le manga et j'ai regardé l'animé.
T'es un vrai fan, en fait.
Oui, j'adore beaucoup. Voilà.
J'adore beaucoup.
Non, mais effectivement, je regarde de temps en temps parce que, en fait, justement, c'est l'un des. C'est un isekai, justement. C'est un isekai, mais très typique. C'est-à-dire que t'as un mec, il va mourir, va se retrouver dans une autre dimension, un autre monde. Et il va devoir. Mais au lieu d'avoir un ennemi à combattre, d'avoir une envie de monter en puissance dès le départ, parce que je sais pas, il se retrouve dans un monde fantastique, du coup il se dit je vais devenir trop fort. Un peu comme Subaru, je crois, de
Rizero. J'ai aucune idée, mais vraiment, j'ai aucune culture manga. Hein. Les classiques, basta.
Non, je comprends.
J'en sais rien.
Je vais pas pouvoir te blâmer pour pas avoir lu et le light novel et le manga et ouais. L'anime.
Pas besoin de pousser le vice à ce point-là.
Ouais, non, clairement. Et en fait, à la base, il veut juste établir un monde plutôt simplet. Un monde un peu utopique où juste il y fait bon vivre et c'est sympa. Et le truc, c'est que du coup, il va avoir des gens à protéger, une population, une ville, une nation entière à devoir.
Oui, il le fait à ses dépens, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, aussi, le système de combat, le système du monde est un peu. Est très compliqué, t'as des compétences supplémentaires, t'as des compétences uniques, t'as des ultra-compétences. Ça part très loin et tu peux pas juste utiliser ça comme ça. Et par exemple, aussi pour le fait de se téléporter, dans certains mangas, c'est comme ça, ça se fait instantanément. Ici, c'est juste un exemple, mais généralement, tous les sorts, c'est à peu près comme ça. En fait, tu passes à travers une autre dimension, tu crées une autre dimension, qui est donc une espèce
c'est,
de...
C'est un entre-deux.
Oui, voilà, c'est un raccourci dans l'espace-temps. Et en fait, le truc, c'est qu'il est très chargé en mana. Et en fait, c'est pas instantané réellement. Et en fait, étant donné que c'est très chargé en mana, il y a les humains qui, eux...
Chargé en quoi ?
En mana.
Genre, c'est une sorte de... Genre... Dans les jeux vidéo, t'as de la mana à charger. En gros, c'est...
De la magie.
C'est une sorte de force que t'as à charger pour pouvoir lancer ton sort.
Ouais,
je connais pas du tout. Je suis pas du tout familière avec ça, en fait. Oui, vraiment pas.
C'est très... Et tous les sorts sont très complexes comme ça. Du coup, ça permet d'avoir vraiment des combats très intéressants aussi. Parce que du coup, il joue beaucoup sur ces propriétés-là lors des combats. C'est pas juste... Il balance son poing et puis voilà.
Ah, d'accord, ok.
Donc je vois. Après, je sais que tout le monde n'est pas fan de ce manga, ce que je trouve vraiment un crime, une horreur. Parce
que chacun ses goûts.
Oui, non, mais bien évidemment. Mais parmi les isekai, je trouve qu'ils se démarquent beaucoup grâce à ça. C'est de base quelque chose qui n'est pas du tout un isekai classique. Et en plus de ça, il y a aussi beaucoup de. Bah, du coup, de. Relations politiques avec les autres pays. C'est-à-dire que, bah, étant donné que c'est. En gros, c'est un monstre, il se réincarne en tant que monstre et il va donc, en tant que monstre, créer une nation de monstres. Sauf que dans son monde, les monstres sont très discriminés, donc il va falloir qu'ils s'établissent en tant que nation, qu'ils résistent des attaques, qu'ils fassent des négociations, du coup. Donc c'est beaucoup tourné autour de ça et c'est pas. Et c'est pas quelque chose de stupide où genre tu fais une guerre et puis
ouais il y a quand même un vrai fond dessus
quoi. Oui voilà c'est ça il y a beaucoup de choses à dire et puis honnêtement je trouve aussi très très drôle c'est encore juste des petits gags par-ci par-là mais n'empêche ça reste très très drôle avec certains personnages gags très drôles et puis voilà même si comment dire je trouve que ça reste quand même un peu mais parfois en termes de monde parce que bah, c'est toujours le même classique isekai avec plusieurs comment dire des elfes des gobelins des choses comme ça donc effectivement ça va pas très loin en tant que world building mais justement comment gérer le monde comment comment ça s'appliquerait réellement j'aime beaucoup comment c'est mis surtout avec un but principal d'un protagoniste qui est un peu niais, créer une nation de monstres et qui est vraiment pas très récurrent du coup dans les isekai donc je pense que c'est tout par rapport à Slime Est-ce que il y a quelque chose, comment dire, est-ce qu'il y aurait un problème par rapport justement au fait que la fantasy soit, enfin que les isekai aussi soient coincés en tant que genre médiéval, européen, des choses comme ça, ou au contraire on peut avoir quelque chose de bien qui ressort pour une fois?
Moi, en vrai, je trouve que c'est pas tant un problème parce que ça reste, bah, c'est juste les bases du monde. C'est comment après tu choisis de naviguer à travers ça. Mais après, j'avoue que genre, le gros problème aussi de ces trucs-là, c'est qu'il y a toujours un gros cliché qui est t'as l'élu ou alors t'as une prophétie qui doit être accomplie. Et ça, je pense que c'est un peu bête parce que genre, tu peux jouer sur un truc où bah, la personne elle a juste pas envie de faire ça, elle a juste envie de causer du chaos.
Oui, c'est clair.
En fait, tu pourrais prendre totalement à rebrousse-poil le gros cliché qui est l'élu et puis la prophétie pour changer du truc et peut-être varier le plaisir.
Mais ça, il y a certainement des œuvres qui le font, non?
Alors,
j'en connais pas, mais il y en a sûrement qui le font.
J'avoue que pour ça, enfin, il y a de la fantasy, genre t'as la duologie de Six of Crows de Leigh Bardugo, qui suit genre en fait une bande de criminels. Enfin, c'est pas un isekai, c'est juste dans un monde fantaisiste qui se rapproche un peu entre un mix de la Russie au temps des tsars. Et avec de la magie, des castes de pouvoir, des gens qui n'en ont pas. Et ça suit une bande de criminels juste là pour se faire du blé. Et franchement, ça change. Et c'est beaucoup, enfin, c'est plutôt drôle. Et c'est vrai que ça change beaucoup du truc où tu es l'élu, tu vas devoir te battre.
C'est ça. Mais après, ça, le problème, c'est que c'est le point de départ de beaucoup d'œuvres en général. Maintenant, encore une fois, ça dépend de comment c'est traité et de comment c'est amené, parce qu'en soi, l'atelier des sorciers, c'est entre guillemets un peu ça aussi. Hein.
Il y a un peu de ça.
Harry Potter, c'est totalement ça. Après, Harry Potter, c'est tellement classique qu'on va peut-être pas non plus trop rentrer dans les détails parce que. On connaît tous par cœur, c'est bon, ça suffit, on en a assez parlé, on en bouffe depuis. Ça fait 30 ans qu'on en bouffe là, ou peut-être moins, mais. Bon, voilà.
Oui, non, mais je vois.
Je pense que tout le monde est passé par les Harry Potter, donc à un moment.
C'est bon. On va pas reparler d'Harry Potter. En plus, il coche pas toutes les cases, quand même pas, mais beaucoup de cases. En tout cas, il a posé des standards, on va dire.
En termes de standards, ça a posé beaucoup de choses, mais c'est ce schéma de l'élu. J'ai l'impression que parfois, dans beaucoup d'œuvres, c'est juste pas très réfléchi. C'est le fait qu'ils soient un élu, et du coup, ça lui donne la motivation ou la raison d'aller jusqu'au bout. Et...
Ouais, c'est ça. Ou alors, tu sais, genre, il prend de l'arrogance à être cet élu et à te dire « je vais le faire ».
Des trucs comme ça. C'est honnêtement quelque chose que... Puis en plus de ça, je suis super étonné, mais généralement, c'est des shonen. Enfin, je comprends pas pourquoi on pourrait pas faire ça avec quelque chose de plus féminin.
Mais pas toujours. Parce que là, je vous entends dire ça. Moi, j'ai lu, par exemple, X de Clamp, où, je sais pas si vous l'avez lu, j'en avais parlé dans la toute première émission, je crois. Et en fait, le personnage principal, pareil, c'est un élu, sauf qu'en fait, le monde, il se trouve dans une espèce de configuration où, en gros, il y a... tout est déterminé à l'avance, en fait. Le destin est déjà écrit. Sauf une chose, en fait, en réalité, c'est... Bah, comment ça va finir, le destin du monde? On sait pas si ça va être la fin du monde ou si le monde va survivre. Parce qu'il y a deux forces qui s'opposent. Ça va être soit les forces de, entre guillemets, protection des humains et les forces de protection de la Terre, dans le sens de la Terre, l'environnement, qui s'opposent, en fait. Okay. Parce que c'est un manga qui va être éveillé à ce genre de problématiques-là, bien qu'il date, il me semble, des années 90. La fin des années 90, un truc comme ça. Oui, parce que le manga, il s'appelle X 1999, donc voilà. Et en fait, le personnage principal, qui s'appelle Kamui, lui... Bah en fait, c'est l'un des seuls personnages où son destin n'est pas déterminé. C'est lui qui choisit s'il va dans le camp des personnes qui vont protéger l'humanité ou s'il va dans le camp des personnes qui vont protéger l'environnement, l'écologie. À savoir que les gens qui vont... C'est pas présenté comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, en fait. À savoir que les gens qui vont protéger l'environnement vont en fait détruire toutes les constructions humaines et toute la civilisation humaine pour protéger l'écologie. Entre guillemets, en gros, c'est ça. Et ceux qui protègent les humains vont protéger les humains, quoi. Et c'est deux combats qui sont louables. Et en fait, le gentil, c'est lui l'élu. On lui dit clairement, on lui dit toi, Kamui, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis ton destin. Tu es l'élu, tu es le seul à pouvoir choisir ton destin sur cette putain de terre. Donc, fais ton choix, quoi. Tu fais ton choix. Et puis en fait, il fait un choix au bout d'un moment. Et je vous dirai pas lequel. Et ouais, ça part de là, par exemple. Du coup, en fait, je pense qu'il y a aussi... le fait que, enfin, les œuvres les plus connues et celles qui sont les plus populaires, c'est celles qui, bah, dont on parle de tout à l'heure, peut-être pas toutes non plus, parce que je pense que les romans dont tu as parlé...
Six of Crows, c'est assez connu. D'ailleurs, en fait, ils ont adapté... En fait, c'est une duologie, mais qui était un peu en séquelle d'une trilogie qui a été adaptée sur Netflix, qui s'appelle Shadow and Bones.
Ah, ouais, je vois.
Okay. Et qui a été cancel. J'ai un peu le sel.
Ah oui, c'est vrai, ils ont
J'ai le gros sel. J'ai le gros sel.
Si tu sais produit tout le sel français. Ah
non. Non mais vraiment, genre c'est... Mais du coup en plus ça avait eu pas mal de succès, c'est ça qui est un peu con, mais du coup c'est assez connu, c'est assez connu pour ça. Et bah du coup ouais c'est... Non en fait, moi ce qui est un peu con dans cette théorie de l'élu et de genre de la prophétie à accomplir, ce serait... Enfin, je trouverais ça intéressant et plutôt marrant, genre d'avoir une personne genre qui est élue, mais qui en a aucune envie et qui s'en fout.
Ah oui, enfin pas un anti-héros du coup, mais plutôt carrément.
Ça serait un peu un anti-héros. Bah si, c'est un peu un anti-héros dans le sens où il va pas. Oui. Enfin, t'as anti-héros et t'as vilain quoi, mais genre j'ai envie de te dire, enfin, genre c'est quelqu'un qui en a rien à secouer et qui a juste envie de vivre sa vie quoi.
Oui, ah ok, d'accord. Ah oui.
J'ai pas de titre en tête, j'ai pas d'exemple, mais ça existe forcément.
Oui, je suis sûre que ça existe.
Je n'en connais pas, là comme sûrement, ça j'en connais pas, mais ça existe forcément.
Le truc c'est que c'est complètement noyé sous tous les autres.
Bah c'est ça, c'est noyé dans le cliché quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, donc c'est très dommage. En fait, c'est un peu pour ça, parce que je me dis qu'on a assez visité le thème. Je dis pas
qu'il... Oui, il serait temps d'innover, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce que je comprends pas aussi, c'est la popularité. C'est le fait que parce que j'ai l'impression, de ce que je vois sur Internet, sur des, certaines communautés, certains même influenceurs que je suis... Bah, ils en ont marre, quoi. Ils regardent plus, ils lisent plus, et puis ils aimeraient bien qu'on passe à autre chose. Mais j'ai l'impression que chaque année, il y a de plus en plus de fantasy classique avec élus et des isekai qui sortent. Et c'est ça que j'arrive vraiment pas à...
Bah, c'est que ça plaît, hein, c'est tout.
Ouais, mais c'est...
Mais c'est vrai que genre il serait temps d'innover.
Ah, mais ça plaît à qui?
Ouais, voilà.
Est-ce que ça plairait pas plutôt à un jeune public aussi?
Parce oui, bah oui, moi, bah, forcément. Lu, mais... J'ai envie de te dire, enfin moi j'ai baigné dans la science fantasy pendant toute mon adolescence et puis je continue encore.
Ça. Bah, j'en lisais. En fait, moi j'en lisais surtout quand j'étais plus jeune, genre Harry Potter, Tara Duncan, j'ai beaucoup lu aussi.
Ça j'ai pas lu.
Mais
apparemment c'était bien.
Ouais, mais en fait j'ai lâché au bout d'un moment parce qu'en fait, en gros, Tara Duncan c'est écrit par Sophie Audouin, Mamie Conyan, il me semble. C'est une série en y a au moins 10 tomes et tout, des gros trucs de fantasy qui se passe dans un autre monde où le personnage principal appartient aux deux mondes à la fois, en fait, notre monde
et l'autre. Ça fait un peu la quête des Willen, un peu aussi.
Oui, que j'ai lu aussi, j'ai lu le tome 1, il y a longtemps.
J'ai tout lu aussi, ça m'avait plu à fond, ça.
Mais en fait, le problème dans Tara Duncan, c'est qu'au bout d'un moment, les personnages... L'œuvre grandit pas avec ses lecteurs, en fait. L'œuvre grandit pas avec ses lecteurs, et au bout d'un moment, on reste sur des concepts... On les a
revisités en long, en large, en travers.
On a tout vu, on a visité en long, en large, en travers. Et moi, c'est un peu ce que je reproche à beaucoup de trucs de fantasy, en fait, aussi. Ouais. Voilà.
Bon, sur ce, on va parler donc de l'unpopular opinion.
Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Là, donc,
ouais, là, c'est...
Ça, c'est les mots de la fin, là.
On va terminer avec une bonne note.
Une bonne note, une hot take qui risque d'emmerder les gens.
Pour certains, une très mauvaise note pour d'autres, je suppose. Alors, donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu avais envie de nous partager?
Alors, moi, c'est un truc qui m'énerve énormément, c'est que dans beaucoup de romans, genre, plus t'arrives un peu à l'âge adulte, ou dans les romans plus adultes, t'as des scènes explicites. Et genre, je trouve que ces trucs-là, mais ne servent en rien à la lecture.
Oui.
Et j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe, en fait.
Oui.
Je m'en fous. Moi, je suis pas là pour ça, en fait. Je suis là pour l'histoire. Et le pire, c'est qu'il y a des livres, mais ça tourne qu'autour de ça. T'es en mode, mais non!
Ouais, bah clairement. Mais en fait, c'est un truc qui apparaît beaucoup dans la dark romance.
Oui, ne parle pas de ça.
Je vais en parler. Du coup, la dark romance, c'est un genre de roman spécifique. C'est de la romance, sauf que c'est dark.
Et très toxique.
En fait, souvent, c'est des relations dépeintes qui sont très toxiques, qui sont très violentes et qui représentent pas du tout des relations souhaitables dans la réalité.
Ah, mais c'est pas ça.
Souvent, du coup, il y a énormément de scènes de sexe, en fait. C'est ça qu'on parle, hein, clairement, de scènes de sexe qui sont écrites de manière explicite.
Oui, c'est ça ce que je dis dans la scène explicite.
Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, le truc explicite. Il ne faut pas avoir peur de le dire.
C'est ça.
On parle de cul au bout d'un moment, donc voilà. Et c'est gênant, en fait.
Ouais, c'est... Mais c'est ça. C'est... J'ai pas besoin de savoir.
Non, mais c'est clair. Enfin, je veux dire, beaucoup trop de détails pour quelque chose dont, qui est...
Qui ne sert strictement à rien.
Ah ouais, voilà, c'est ça.
Après, le truc, c'est qu'autant il y a des romans, je suis d'accord, qui donnent beaucoup trop de détails, autant il y a des romans. En fait, c'est le plot, enfin l'intrigue, c'est que ça. En fait, le problème, c'est que dans les librairies, souvent, en plus, ces romans, le pire, c'est que des jolies couvertures,
le pire, c'est pas ça, c'est que maintenant, en plus de ça, genre, par exemple, ils en mettent, mais au rayon, genre, jeune ado et tout.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Et franchement, ça, c'est, enfin, ça a pas à être ici, en fait.
Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces romans, souvent, c'est comme de la pornographie, mais écrite, en fait.
Mais c'est ça.
Et le problème, c'est que ces romans, ils sont marketés, ils sont vendus de manière tout à fait normale. Alors que ça devrait clairement pas être vendu à tout le monde,
mais
en fait.
Mais oui, c'est là que tu vois des jeunes de 13 ans qui lisent ça et t'es en mode, faut se calmer.
Si le porno c'est interdit au moins de 18 ans, ce genre de livre, ça devrait être...
Ça devrait être en romance adulte, quoi.
Oui.
tu mets pas ça avec des ados.
Non, mais je suis bien d'accord avec toi, donc...
Oui, non, mais sur ce coup-là, je suis aussi bien d'accord. D'ailleurs, je me demande qui dirait non.
Je pense qu'il y aurait des gens qui... Ouais, ça, les gens qui en lisent, c'est comme ça. Hein. Chacun ses opinions, mais j'avoue que moi, j'aime pas ça.
Parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En fait, le truc, c'est que c'est un côté, je pense, très addictif aussi pour les gens qui kiffent ce genre de truc. Après, il y a des gens qui lisent que ça, en fait, tout le temps. Ils peuvent pas lire un livre s'il y a pas...
S'il y a pas au moins une scène de sexe explicite.
Une scène de sexe explicite dedans. Il y a des gens qui lisent le livre que parce qu'ils savent qu'il y a tel truc. Que parce qu'ils savent que dedans, les deux personnages, c'est un enemies to lovers, et puis au final...
Il y en a qui sont bien écrits, mais...
Moi, j'ai pas de problème avec les enemies to lovers, c'est des problèmes avec les scènes de cul qu'il y a dedans.
Non, parce qu'il y en a qui existent, qui sont sans scènes de cul, et franchement...
Oui, non, mais bien sûr, mais là, on parle vraiment des trucs avec les scènes explicites qui sont vraiment pas nécessaires, quoi. Ou en tout cas, qui devraient pas être divulgués pour tout le monde.
C'est ça.
Vous m'apprenez à quel point c'est populaire, parce que je ne connais
pas. Mais je sais pas si t'as traîné sur le BookTok ou tout ça, mais genre.
Le BookTok, c'est sur TikTok, en fait. C'est une communauté qui parle que de livres, en gros.
Et
qui
pas du tout.
Et genre en ce moment, mais il y a un grand.
Quelques mois, maintenant.
Ouais, une grande évolution dans ça.
Mais carrément, moi je tombe, parce que moi j'ai TikTok, et des fois je tombe sur des pubs sur TikTok pour des romans en ligne. Mais c'est des trucs hyper violents.
Et hyper. Non, mais aussi, genre, t'es
hyper macho, hyper cliché, hyper gênant. Hyper gênant.
Sexiste et tout. Et t'es en mode. Enfin, qui peut lire ça Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui savent se détacher de ça. Mais même moi, par mes propres principes, j'arrive pas à lire ça. Enfin, surtout si.
Déjà oui, et en plus moi parce que ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi le vrai problème là-dedans c'est les personnes trop jeunes qui lisent ça et le fait que ces livres soient disponibles pour tout le monde et qu'il n'y a aucun contrôle dessus.
C'est ça,
et le fait en fait qu'il y a des gens qui sont juste accros sur le truc, qui ne lisent que ça, que par ça et qui vivent que par ça et faut se méfier quand même quoi.
Ouais,
c'est ça ouais.
Peut-être que c'est une négligence, je sais pas, de la part de dire c'est juste des mots, c'est rien, le truc c'est que...
Le pire c'est pas ça, c'est que genre il y a certains livres, au dos des couvertures, tu sais, des fois ils mettent un petit piment histoire de dire à quel point à quel point il y a du cul dedans quoi. Il y a des gens qui... Enfin, il y a des jeunes qui voient ça et qui le lisent quand même quoi.
Oui, je vois. Ok, oui. Et écoute, c'était très instructif, je ne connaissais pas du tout.
Je ne connaissais pas la problématique du smut le smut, c'est l'autre nom qu'on donne.
Je préfère connaître ce problème par quelqu'un qui m'en parle
que de le découvrir sur un hasard.
Lis ce super roman que j'ai trouvé à la Fnac. Dans la catégorie jeune adulte.
Je ferai attention. Et sur ce, je pense qu'on peut terminer cette émission.
On se retrouve dans 2 semaines, du coup. L'émission, c'est tous les jeudis... un jeudi sur deux, de 10h à 11h, diffusé à la radio. Vous pouvez nous retrouver toutes les émissions enregistrées sur le site de Graphite.
On peut s'arrêter là.
C'est ça. Suivez-nous sur les réseaux.
Suivez-nous sur les
Insta,
réseaux.
Sur Insta, BDBDEC.
Puis on se dit à la prochaine fois.
Ouais.
Salut.